Vous écoutez Radio France Internationale. Il est 19h30 à Paris et Kinshasa, 18h30 en temps universel.
Afrique Soir.
Et c'est l'heure de retrouver la première édition d'Afrique Soir de ce jeudi, présentée par ce soir Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Les États-Unis annoncent des sanctions financières contre l'ancien ministre de la Défense rwandais, James Kabarebe, accusé d'orchestrer le soutien des troupes rwandaises aux rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Visé aussi par ces sanctions, Laurence Kanyuka, le porte-parole de l'AFC M23. Et puis nous parlerons de ces tirs et de ces pillages qui se sont poursuivi ce jeudi à Uvira, la deuxième ville de la province du Sud Kivu. Dans l'actualité également, l'opposant guinéen Abdoul Sakho, figure de la société civile, enlevé hier chez lui, retrouvé dans un état critique. Il a été abandonné par ses ravisseurs, selon ses avocats. C'est un pas en avant pour les historiens. Le Sénégal va procéder à des fouilles archéologiques pour savoir combien de tirailleurs africains ont été tués par les forces coloniales françaises à Tiaroy le 1er décembre 1944. La rétrocession par l'armée française de la base militaire de Port-Moué en Côte d'Ivoire également. Le football avec le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue africaine des champions. Et enfin, l'instant détente d'Afrique Soir, très attendu, la sélection musicale d'Hervé Mandina alias DJ Facemaker en direct et live dans ce studio. Des sanctions américaines contre des responsables rwandais et congolais du M23 pour leur rôle majeur dans l'offensive dans l'est de la République démocratique du Congo. James Kabarebe, ministre rwandais de l'intégration régionale, et Laurence Kanyuka, porte-parole de l'AFC M23. Tous leurs avoirs aux États-Unis sont gelés. À Washington, Guillaume Nodin.
Ce sont Kabarebe et Kanyuka qui sont dans le viseur du Trésor américain. Son communiqué dénonce très clairement leur rôle dans l'organisation et la progression dans l'est de la RDC du mouvement armé M23 soutenu par le Rwanda. James Kabarebe est le ministre rwandais de l'intégration régionale et il est présenté comme ayant un rôle central dans le soutien au M23 et dans son organisation militaire. Il est d'ailleurs un ancien général des forces armées rwandaises. Le communiqué du Trésor lui attribue aussi un rôle clé dans l'extraction et l'exploitation des ressources minières dans l'est de la RDC. Laurence Kanyuka est lui le porte-parole civil du mouvement M23 et Alliance Fleuve Congo. À ce titre, il est accusé par les États-Unis de participer activement à la déstabilisation dans l'est de la RDC. Les sanctions consistent essentiellement en des gels d'avoirs des personnes concernées et des entités leur appartenant, comme deux sociétés de Kanyuka basées à Londres et à Paris, qui sont également sanctionnées. Pour le département d'État américain, les prises de Goma à la fin janvier et de Bukavu ensuite, ainsi que la rapide expansion du M23 dans l'est de la RDC, ont conduit à des milliers de morts civiles et à des déplacements forcés de population, et cela risque de dégénérer en conflit régional. Les États-Unis appellent à un retour à la négociation et au respect de l'intégrité territoriale de la RDC. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Des sanctions américaines commentées à Kigali, une décision injustifiée pour la porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo. Elle appelle la communauté internationale à soutenir, je cite, et non saper les efforts régionaux en cours pour une solution politique. Sanctions également commentées à Kinshasa, où là, on se félicite pour la présidence congolaise. Ceci confirme ce que la RDC a toujours dit, à savoir que le gouvernement rwandais est derrière cette rébellion du M23. Pour la présidence congolaise, ce n'est qu'un premier pas. Elle dit ne pas comprendre les tergiversations de l'Union européenne quant à de possibles sanctions. Et sur le terrain, des tirs et des pillages à nouveau signalés ce jeudi à Uvira, la deuxième ville de la province du Sud Kivu, frontalière avec le Burundi. Depuis plusieurs jours, les habitants rapportent notamment des accrochages entre des militaires congolais et des Wazalendo, les milices pro-gouvernementales. Coralie Pierret.
Dès ce jeudi matin, les pillages ont repris, notamment chez un pasteur en centre-ville et chez des particuliers, témoignent des habitants sur place. L'un d'entre eux raconte à RFI avoir vu des hommes armés, parmi eux des éléments de l'armée congolaise ou leurs alliés qui, je cite, avaient fui Bukavu, le chef-lieu de la province du Sud Kivu, au moment de l'arrivée ce week-end du M23, appuyé par l'armée rwandaise. Ce matin, ces hommes armés ont d'abord forcé la porte de ma maison, puis ils sont arrivés en grand nombre pour récupérer des haricots, du riz et de la nourriture, poursuit ce même témoin. Depuis plusieurs jours, des affrontements entre FARDC et Wazalendo sont signalés à Uvira. Si le bilan précis n'est pas connu, plusieurs personnes, dont des civils, ont été blessées, d'autres ont été tués, selon une source humanitaire. Conséquence, de nombreux habitants ont fui la ville en partant vers le sud ou vers le Burundi voisin. Il y a deux jours, mardi 18 février, le M23 et ses alliés rwandais s'étaient emparés de Kamanyola, une localité à 75 km au nord de la ville d'Uvira. Depuis, la confusion règne le long de la route nationale numéro 5, autrement appelée la plaine de la Ruzizi, une vallée qui fait frontière entre la RDC et le Burundi. Coralie Pierret, Kinshasa, RFI.
Abdoul Sakho, figure de la société civile guinéenne et cadre de l'opposition à la junte, a été retrouvé dans un état critique, torturé et abandonné en brousse par ses ravisseurs. Il avait été enlevé hier chez lui par des hommes encagoulés. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui ses avocats. L'enlèvement de ce responsable des forces vives de Guinée, qui est une coalition de partis, de syndicats et d'ONG qui réclame un retour des civils au pouvoir, a suscité de vives protestations en Guinée. Écoutez Maître Sekou Keïta, l'un des avocats d'Abdoul Sakho.
Quand nous avons appris l'information, nous avons cessé non seulement à l'envoyer dans un centre hospitalier pour qu'il reçoive les premiers soins avant de le mettre à l'abri. Aujourd'hui, on peut dire qu'il est à l'abri, mais il est très malade, et gravement malade, puisqu'il a été sérieusement torturé et battu par les assaillants. Donc on ne sait pas qui sont derrière, mais tout porte à croire qu'on ne peut pas parler de plus des bandits ou des trucs, puisque ceux qui étaient venus avaient une mission. M. Sakho a été sérieusement questionné sur ses activités, et nous sommes très heureux, mais malgré qu'il est dans un état très critique, de même pas tenir un téléphone sur ses bras. Aujourd'hui, il a des membres inférieurs tout enflés. Tous les deux bras sont complètement gonflés, donc c'est assez compliqué pour lui aujourd'hui de se tenir même debout. S'il a été sérieusement bastonné, même au niveau de son dos, il y a des traces qui sont visibles. Donc c'est un homme aujourd'hui démuni, blessé dans son âme, et sérieusement torturé et battu devant sa famille. Mais en tout cas, on est heureux qu'on a enfin en tout cas retrouvé, même s'il est dans un état très critique.
Voilà, Maître Sekou Keïta, l'un des avocats d'Abdoul Sakho, au micro de notre correspondant à Conakry, Moukhtarba. Cette annonce était très attendue. Le Sénégal va procéder à des fouilles archéologiques pour déterminer combien de tirailleurs africains ont été tués par les forces coloniales françaises à Tiaroy, près de Dakar, le 1er décembre 1944, alors que les soldats africains réclamaient leurs soldes. L'annonce a été faite par le Premier ministre sénégalais en Conseil des ministres. Les historiens réclament ces recherches depuis près de 20 ans. Ils estiment à au moins 350 le nombre de victimes de ce massacre, alors que les archives françaises n'en ont officiellement recensé que 35. Aucune date n'a encore été annoncée pour le démarrage de ces fouilles. Mais pour Mamadou Koné, historien et membre du comité scientifique sur le massacre de Tiaroy, c'est un grand pas en avant.
On revient de très loin. Déjà, on a fait un grand pas que dans un conseil des ministres, que la décision soit prise de procéder par des fouilles archéologiques. Le reste maintenant, nos archéologues sont là, en train de se ronger les ongles. Ils attendent depuis très longtemps. Depuis les années 2005-2006, on a toujours dit que, à défaut d'archives, il faut procéder par des fouilles archéologiques. Parce que si les archives ont été dissimulées depuis le massacre le 1er décembre 1944 jusqu'à aujourd'hui, c'est pas maintenant que, gentiment, on va nous les sortir pour dire oui, on s'était trompé, voilà, donc on vous remet ces archives. Même si, moi, je pense que ça va être difficile. Quand on se rappelle que ces tirailleurs ont été pratiquement massacrés avec des armes lourdes, il ne faut pas s'attendre à voir des squelettes complets. Donc, il faudra un temps assez long pour regrouper tout cela. Rappelez-vous un peu les fosses communes en Amérique latine. Donc, c'est un travail de fourmi. Mais au moins, on pourra savoir le nombre de victimes.
Voilà des propos recueillis par Léa Lisa Westerhoff à Dakar.
Abidjan, 97.6 FM.
Et une page se tourne en Côte d'Ivoire pour l'armée française. Les autorités françaises ont officiellement rétrocédé ce matin le camp militaire de Port-Boé aux autorités ivoiriennes. C'est la fin de 50 ans de présence de l'armée française dans cette base qui se trouve près d'Abidjan. Le ministre français des armées, Sébastien Lecornu, et son homologue ivoirien, Téné Birahima Ouattara, étaient présents à la cérémonie. Binta Diagne.
Les officiels français et ivoiriens posent côte à côte en face de l'arche où est inscrit le nom du général de corps d'armée Thomas Ouattara d'Aquin. C'était le premier chef d'état-major des armées ivoiriennes présenté comme un héros de 1939 face à l'Allemagne nazie. Puis la première sentinelle ivoirienne prend la relève de la garde française. Les militaires français lui remettent les cartes d'accès du poste de commandement. Ensuite, sur la place de garde, le drapeau ivoirien est hissé. Et face à un public trié sur le volet, le ministre français des armées, Sébastien Lecornu, évoque le maintien de la coopération militaire avec la Côte d'Ivoire.
La France transforme sa présence, la France ne disparaît pas. Et c'est ainsi que 80 militaires français, composant un socle d'un détachement de liaison interarmée, va venir en quelque sorte armer, socler ici la présence militaire française pour les besoins que vous exprimerez.
Le ministre ivoirien de la Défense, Tene Biraïma Ouattara, parle de relations décomplexées avec la France. Le ministre d'État évoque aussi l'espoir d'une coopération dynamique avec Paris. Concernant enfin le camp militaire, les forces armées ivoiriennes s'engagent à en faire un centre de discipline et d'excellence, assure le ministre ivoirien de la Défense. Bintadiane Abidjan, RFI.
Vous écoutez Afrique Soir, 18h40 en temps universel, et à Bamako se tiendront demain les obsèques de Souleymane Cissé, le grand réalisateur malien, le patriarche du cinéma africain qui nous a quitté hier. On en a beaucoup parlé sur notre antenne et aujourd'hui encore toujours beaucoup de réactions. Willy Diallo, bonsoir.
Bonsoir. Le ministre malien de la culture Mamoud Affé a fait part de sa tristesse après la disparition de ce monument du cinéma africain. Pour le célèbre réalisateur Boubacar Sidibé, c'est le cinéma malien qui est en deuil. Clap de fin pour le maestro Souleymane Cissé. Sur Facebook, il a salué l'engagement du cinéaste qui mérite tout notre respect et notre admiration pour tout ce travail qu'il a fait pour montrer au public les richesses du patrimoine culturel malien et africain. Au terme de sa vie, en plus de son talent de cinéaste, ses proches retiennent aussi et surtout sa personnalité chaleureuse. Le réalisateur tchadien Mama Saleh Haroun veut se souvenir de son rire et de son sourire, cette espèce de luminosité qu'il avait dans les yeux. Au cours de sa carrière, Souleymane Cissé avait remporté deux étalons de Yenenga au FESPACO. Le Burkina, pays organisateur du festival, a rendu hommage à une figure emblématique et un cinéaste engagé qui a consacré toute sa vie au 7e art.
Merci Willy Diallo. On va écouter à présent une voix bien connue des auditeurs de RFI, Catherine Ruel, journaliste et critique de cinéma qui a fait une grande partie de sa carrière sur votre radio et qui a bien connu cette légende du cinéma malien. Elle y revient avec Arthur Ponchelet.
Il a marqué parce qu'il a cherché une forme qui soit une forme qui émane de sa propre culture, mais avec des moyens techniques qui sont les moyens des Occidentaux. Donc c'est une conjugaison en fait de plusieurs cultures et une façon de porter témoignage à travers un langage complètement différent. Les films de Souleymane étaient des films porteurs d'idéologies très fortes, parce que c'était un homme très engagé, mais aussi avec une poésie qui venait du plus profond de lui-même. Il voulait absolument faire en sorte qu'on comprenne l'importance des cultures d'Afrique et la façon aussi dont ces cultures pouvaient s'affronter au monde.
Et il y a aussi toute une notion de transmission hein, dans son œuvre, puisque ces dernières années, et même tout au long de sa carrière, il voulait transmettre à la nouvelle génération de cinéastes maliens. Il a notamment exhorté les autorités maliennes à construire des salles pour projeter les films de cette jeune génération. Est-ce qu'il y est parvenu à transmettre, selon vous ?
Alors, c'est vrai que transmettre l'œuvre des jeunes cinéastes, c'était vraiment une de ses préoccupations profondes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il avait créé une association qui s'appelait l'UCKO, qui faisait partie de ces grandes institutions panafricaines du cinéma, dans lesquelles les distributeurs et les exploitants se mettaient ensemble. Parce que le gros problème du cinéma sur le continent, encore maintenant, c'est qu'il n'y a pas de salle pratiquement. Et donc les films sont faits, mais les films ne sont pas vus par le public auquel ils sont destinés en premier, c'est-à-dire les jeunes du continent africain.
Il y a des festivals de cinéma sur le continent, notamment le FESPACO qui commence après-demain à Ouagadougou. Souleymane Cissé devait d'ailleurs présider le jury fiction long métrage du festival. Le FESPACO, c'est un festival qui l'a marqué.
Souleymane a eu deux fois les talons d'or à Ouagadougou pour deux de ses films. C'est vraiment important, c'est une reconnaissance par ses propres pairs avec le public africain de l'importance des films, en fait. C'est pas un jugement occidental ou des prix à l'occidental, c'est pas ça qui est important pour lui. Ce qui est important, c'est de transmettre. Et donc, pour transmettre, il faut être vu. Et donc, effectivement, Souleymane était très attaché au FESPACO, était vraiment content, fier d'être le président du jury.
Voilà Catherine Ruel, ex-journaliste à RFI, grande spécialiste du cinéma africain et qui a bien connu Souleymane Cissé. Elle répondait à Arthur Ponchelet. Le football avec ce jeudi à Doha au Qatar, le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue africaine des champions. À ce stade, tous les matchs sont des affiches, mais une a retenu particulièrement l'attention d'Olivier Pron.
Le Al Ahly du Caire face au Al Hilal Omdurman, le tenant de la compétition, 12 fois titré, 4 fois sur les 5 dernières éditions, opposé au Soudanais de Florent Ibengué, le Congolais. Une formation qui fut la première à valider son ticket pour ses quarts de finale et qui joue, on le rappelle, en Mauritanie pour cause de conflit au pays. Les Kairotes, eux, ont peiné pour en arriver là, mais les Diables Rouges ne sont jamais aussi dangereux qu'en match couperet. Les autres confrontations de ces quarts, un choc pour une revanche entre les Mamelodi Sundowns sud-africains, lauréats en 2007, et l'Espérance Tunis, vice-championne en titre, après avoir remporté 4 fois le trophée dans le passé. L'année dernière, les deux équipes s'étaient affrontées en demi. Les espérantistes s'étaient imposés 2 fois 1-0. Leur entraîneur, le Portugais Miguel Cardoso, avait été écarté en fin de saison. Il est aujourd'hui celui des Sundowns. À noter également les face-à-face entre d'autres Sud-Africains, ceux des Orlando Pirates, seul club invaincu du plateau en 10 matchs, et le Mouloudia d'Alger. Enfin, le club qui monte sur le continent, le Pyramids FC, face aux historiques phares de Rabat. Match aller le 1er avril, retour 8 jours plus tard.
Et tirage aussi des quarts de finale de la Coupe de la Confédération. L'ASEC Mimosa d'Abidjan affrontera les Marocains de la Renaissance de Berkane. Choc algérien entre le CS Constantine et l'USSM Alger. Enfin, le Zamalek du Caire sera opposé aux novices sud-africains de Stellenbosch. Et enfin, Al Masry, autre club égyptien, rencontrera les Tanzaniens de Simba. Suite et fin de notre série de reportages consacrée au nord du Bénin, une zone confrontée à la menace d'attaques terroristes et en raison de sa proximité avec la frontière du Burkina Faso, la commune de Banikouara est aussi un lieu de refuge pour les Burkinabés qui fuient les violences dans leur pays. Fin octobre, le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, a recensé plus de 17 000 réfugiés et demandeurs d'asile au Bénin. Toutes nationalités confondues, c'est un reportage de Magali Lagrange.
Sabeki est posé à côté de lui des boîtes de médicaments au pied du lit. Il y a 3 ans, avec sa femme et ses 7 enfants, cet homme est monté dans un camion pour fuir les violences dans la commune de la région de l'Est du Burkina Faso qu'il l'a vu naître en 1958.
On le quittait là-bas, on le venait au Bénin ici. On est très content parce qu'il nous aidait, il nous donne l'argent, on achète le manger. Je suis malade, mais c'est dedans que je prends pour aller payer le produit. Bon, mon enfant, il y a d'autres qui sont à Parakou, il y a d'autres qui sont à Kandi. Comme on n'a pas de champ, il est obligé d'aller travailler pour avoir quoi manger. Je ne sais pas comment je vais remercier au Bénin.
Plusieurs organisations comme la Croix-Rouge et l'UNICEF portent assistance aux réfugiés qui essaient aussi d'avoir des activités pour gagner un peu d'argent.
Il y a tassé d'abord. Les pédales sont ici.
Cette mère de famille, foulard noué sur la tête, manie le métier à tisser installé chez elle, dans la cour quelques animaux. Le souvenir des événements qui l'ont poussée à fuir sa commune de l'Est du Burkina Faso avec 3 de ses enfants est encore vif. C'était il y a 2 ans.
Ça chauffait là-bas. Ça commençait le jour de marché. Et les gens couraient, disent « Ah, ça va pas, ça va pas ». Le militaire vient, c'est des problèmes. Et si on va aussi, les terroristes aussi viennent, c'est des problèmes. On ne savait pas même comment faire. Donc les autres ont commencé à fuir un peu. Nous-mêmes, on a commencé à... Ça va pas. Parce que de ce qu'on trouvait à manger, il n'y a pas. Il faut aller chercher les bois, il n'y a pas. Il y avait les gens qui ont perdu leur mari, leurs enfants. On voit tout le monde partout, on pleut. Donc Dieu merci, j'ai pris mes enfants. Et on est venu à Banikouara ici.
À Banikouara, elle et ses enfants se portent bien. Mais les récents événements sécuritaires dans le nord du Bénin ne la rassurent pas.
Banikouara aussi a... 21, 23 heures, c'est pas bon. Vers Pointe-Trèque là-bas. On a vu ça dans le portable, que les gens là sont venus là-bas pour tirer nos militaires encore, qui nous sauvent. Ça nous a donné peur aussi. Nous, on a quitté là-bas pour venir ici. Si ça commençait aussi, c'est pas bon. Seulement, on va prier Dieu pour bénir aussi.
Magali Lagrange, de retour de Banikouara, RFI.
RFI 19h48, ici à Paris, à suivre ce soir sur l'antenne de la Radio du Monde, Accent d'Europe. On partira en Allemagne à quelques jours des élections. Celui qui a toutes les chances de devenir chancelier, Friedrich Merz, c'est son nom, veut rétablir les contrôles permanents aux frontières. interdire le regroupement familial et incarcérer sans limite de durée toutes les personnes censées de quitter le territoire. Mais ce sera très difficile à mettre en place, estiment les ONG.
Dans les faits, il existe 800 places dans les centres de détention pour les personnes devant quitter le territoire. Or, il y a environ 40 000 personnes qui sont censées être expulsées. Techniquement, ce n'est pas possible.
Voilà, Accent d'Europe, c'est à écouter à 20h10 sur notre antenne ou en podcast sur le site d'RFI. À suivre également ce soir, Couleur Tropicale, après un premier volet consacré aux femmes. Maury Touré nous proposera une programmation consacrée aux voix masculines de la musique mandingue. On va écouter Sekouba Bambino et avec ce titre, Sinikan.
Kandu belema ini mobade kono ikana sinikan fo mani alanye kuma manyi imalongu madu belema kuma kandu belema ini mobade kono ikana sinikan fo mani alanye sinikan ala kadun ya da kamogolu da mabeke kelendi Famani fandalu bade miria kilina bi Dinyo ya bela duka na sininka mfomfa Kumandi alanye Alaka dunu ya da kamogolu dama beke kilindi Famani fandalu bade miria kilina Dinyo ya bela duka na sininka mfomfa Kumandi alanye sininka
Afroclub, le hit des platines. DJ Facemaker.
Et l'ambianceur officiel d'Afrique Soir s'est déjà installé dans ce studio pour sa très attendue sélection musicale certifiée Afroclub. Bonsoir Hervé Mandina.
Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous.
Alias DJ Facemaker, hein, qu'on ne présente plus. Votre dernier rendez-vous de la semaine sera ponctué par la traditionnelle séquence rétro hein, qu'on attend toujours avec impatience. Ce sera dans un instant, mais d'abord, place aux dernières sorties avec le chanteur Nama Dengo du Malawi.
Oui, je vois que vous avez du mal à le dire. Nama Dengo. Ouais, et il se fait aussi appeler Docteur Nama. Madingo, le chanteur malawi fait ses grands débuts dans l'Afroclub, bien que lui-même ne soit pas un débutant, bien au contraire. Plus de 20 ans de carrière déjà pour cet expérimenté de la scène pop afro, qui vient pourtant de l'école gospel. Notez que Nama Dengo a la particularité d'embrasser la culture du Malawi et celle de la Zambie sous le nom de Zama Lawi. On découvre son single Tuli, disponible depuis le 5 février.
Inendeta bweza chani, inendeta bweza chani. Sina sange dine kutinka lendi moyo. Ana sanga, mwini wa moyo. Silu sola manja anga, kutingwone kebwino chonchi. Ine ana konza yeka, mwini wa moyo. Andu ni moyo wanga, moyo. Moyo wanga uli mtanja lake la wa mamba moyo Mbali wanga moyo wako moyo moyo chautayo Aubise mungaka yake wa mamba moyo
Pala mezima mimbira
Tuli, tuli, tuli
Tuli qui signifie dévotion et d'ailleurs on peut l'entendre hein, dans les arrangements et les harmonies qui résonnent très soul. À présent Hervé, c'est au tour de la chanteuse nigériane Tems.
Oui, Tems qui dévoile une autre facette de sa personnalité artistique dans Boy Oh Boy, une ballade acoustique tirée de son premier album Born in the Wild, récompensé aux Grammy Awards, je le rappelle. Dans ce morceau, Tems exprime de mauvais souhaits à l'endroit de son compagnon qui a fait de leur relation un terrain toxique. Juste avec un piano et sa voix, Tems se débarrasse littéralement de l'homme qui qu'il a épuisé en le déposant encore endormi en plein milieu de la route, comme une métaphore pour le rendre à la rue, à la street, comme on dit.
You're a pain in my brain. I might stay up a little longer. You're killing me, babe. I'm not playing. You done dead do rubbish you always do. I wonder how I'd love to think like you. Cause I'm not really for you. No, I'm not really for you. You raise my blood pressure, my headaches, my chest aches, my heart breaks.
Et place à présent la séquence rétro, hein, celle que l'on attend toujours avec impatience, Hervé. Et je vois que vous avez choisi le groupe de R&B français, Poetic Lover.
Ah oui, alors on va mettre les auditeurs dans la confidence. Hein. Mardi dernier, vous m'avez suggéré de diffuser un titre de Diams pour cette séquence rétro. Et l'actualité nous a rattrapés puisque les Poetic Lover, révélant 97, ont annoncé leur retour pour un concert exceptionnel le 20 avril prochain au Casino de Paris. Et le groupe a fait chavirer les cœurs avec leur titre phare. On se rappelle, Prenons notre temps. Ici, de leur premier album Amant Poétique, vous m'avez dit que vous ne connaissiez pas, mais promis, alors Sylvie, on écoutera Diams la prochaine fois que vous êtes là un jeudi.
On va avec plaisir.
Reste-moi juste pour cette soirée, te toucher, te caresser, car la fureur de nos baisers me fait vraiment vibrer. Alors pourquoi me faire languir? Oui, pourquoi me retenir? Sois sûr que je
...1997, hein, c'est l'autre siècle, c'est l'époque où on allumait les briquets.
Hein. Exactement, et on se brûlait les doigts.
Et c'est déjà le moment de conclure l'Afro Club avec une collaboration 100% rwandaise entre la jeune Zubare et Nel Gabo.
Oui, souvenez-vous, c'est dans l'Afro Club que vous avez découvert l'artiste féminine Zubare, hein, signature du label Kina Music. Soleil Ouazé de son vrai nom, moi j'aime Soleil. Elle dévoile sa deuxième production seulement à tout juste 21 ans, et c'est le titre Everyday avec Nel Ngabo. Les deux artistes chantent envoient un message positif avec des paroles profondes qui disent « Je retomberai amoureux de toi chaque jour que Dieu fait », un résumé de la vie de couple qui se fait confiance au quotidien et grandit ensemble. Et ça, c'est en théorie.
Everywhere you go, I go follow. Da kukunda today na tomorrow. Muzonjera kujenda solo. Cause you make me fall in love every day. My talent, talent, talent. Gitondo ndabyo kangashimana iyo ngukubise maso mutima wanjye urasimuka ma chérie chérie bizinge umugisha mfite ndabuze pe oye sinzawupfusha ubusa. I promise you this, I got to chiku kandi everything's gonna be alright. One plus one equals one when it comes to us. Jena kuye momo momo momo, sinzu kwa wanjenja nisangamo. You make me sing hallelujah, I fall in love with you every day.
Et c'est avec Zubare et Nel Gabo que se referment les portes de l'Afro Club de ce jeudi 20 février. Le temps de recharger les batteries et vous rouvrez mardi prochain, Hervé.
Oui, fidèle au poste dès le mardi avec une sélection renouvelée. Et d'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre application RFI Pure Radio.
Et également sur notre site internet rfi.fr. Je vous souhaite déjà un très très bon week-end, Hervé Mandela.
Merci Sylvie.
Prix.
Priorité santé.
Charlie Dupiot vous invite à poser vos questions sur le thème de demain.
Enfants et écrans, quels sont les risques de trop regarder le téléphone ou la télévision à un jeune âge ? Quelles limites faut-il fixer ?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI. Demain sur RFI, sur le Pont des Arts est à Abidjan. Nathalie Amar.
Nous fêterons les 10 ans du festival Abidjan Capitale du Rire avec Maman et avec l'une des têtes d'affiche de la programmation, le Magnifique. Il sera aussi question avec eux de ces humoristes en herbe qui peinent à se faire connaître. Première émission spéciale enregistrée au Palais de la Culture.
Sur le Pont des Arts avec Nathalie Amar. Du lundi au vendredi à 15h10 TU sur RFI.